Question. C'est fascinant. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sexe? Réponse. Patience. J'y arrive. Le monde entier échange constamment de l'énergie. Ton énergie est poussée vers l'extérieur et atteint tout le reste. Tout le reste et tous les autres t'atteignent. Mais alors, il se produit une chose intéressante. À un certain point, à mi-chemin entre toi et tout le reste, ces énergies se rencontrent. Pour donner une description plus vivante, imaginons deux personnes dans une pièce. Elles sont de chaque côté de la pièce. Nous les appellerons Thomas et Marie. Alors, l'énergie personnelle de Thomas transmet à l'univers des signaux sur Thomas dans un cercle de 360 degrés. Une partie de cette onde d'énergie atteint Marie. Entre-temps, Marie émet sa propre énergie, dont une partie atteint Thomas. Mais ces énergies se rencontrent d'une façon à laquelle tu n'as peut-être pas songé. Elles se rencontrent à mi-chemin entre Thomas et Marie. Ici, les énergies s'unissent. Rappelle-toi, ces énergies sont des phénomènes physiques. On peut les mesurer, les sentir. Et se combinent pour former une nouvelle unité énergétique que nous appellerons Thomarie. C'est l'énergie combinée de Thomas et de Marie. Thomas et Marie pourraient très bien appeler cette énergie le corps intermédiaire, car c'est justement un corps d'énergie auquel les deux sont reliés, que les deux alimentent des énergies continuelles qui circulent dans sa direction et qui renvoient des énergies à ses deux parrains le long du fil, ou de la corde, ou du pipeline qui existe toujours au sein de la matrice. En effet, ce pipeline est la matrice. C'est cette expérience de Thomary qui est la vérité de Thomas et de Marie. C'est vers cette communion sacrée que les deux sont attirés, car ils sentent, le long du pipeline, la joie sublime du corps intermédiaire, de l'un relié, de l'union bénie. Même à distance, Thomas et Marie peuvent sentir, d'une manière physique, ce qui se passe dans la matrice. Les deux sont attirés de façon urgente vers cette expérience. Ils veulent se diriger l'un vers l'autre tout de suite. À présent, leur entraînement entre en jeu. Le monde les a entraînés à ralentir, à douter du sentiment, à se prémunir contre la blessure, à se retenir. Mais l'âme veut connaître Thomary, maintenant. Avec de la chance, ils seront suffisamment libres pour écarter leurs peurs et s'en remettre à l'amour. À présent, les deux sont irrévocablement attirés vers le corps entre eux. Thomary est déjà en train d'être vécu métaphysiquement, et Thomas et Marie voudront en faire l'expérience physiquement. Alors, ils se rapprochent, mais non pour rejoindre l'autre, comme pourrait le croire l'observateur superficiel, mais chacun d'eux essaie de rejoindre Thomary. Il essaie de rejoindre cet endroit d'union divine qui existe déjà entre eux, l'endroit où ils savent déjà qu'ils ne font qu'un, et ce que c'est que d'être un. Alors, ils se dirigent vers ce sentiment, entre guillemets, dont ils font l'expérience, et, à mesure qu'ils referment la brèche entre eux, à mesure qu'ils raccourcissent la corde, l'énergie qu'ils renvoient tous deux vers Thomary parcourt une distance plus courte, elle est donc plus intense. Ils se rapprochent encore davantage. Plus courte est la distance, plus grande est l'intensité. Ils se rapprochent encore davantage. Une fois de plus, l'intensité s'accroît. À présent, ils se tiennent à seulement quelques mètres l'un de l'autre. Le corps intermédiaire rougeoie. Il vibre à une vitesse folle. La connexion qu'émet et reçoit Thomary est plus épaisse, plus large, plus brillante et brûle, avec le transfert d'une énergie incroyable. On dit que les deux brûlent de désir, et c'est vrai. Ils se rapprochent encore davantage. À présent, ils se touchent. La sensation est presque insupportable, exquise. Ils sentent à leur point de contact toute l'énergie de Thomary, toute la substance compacte, intensément unifiée de leur être combiné. Si vous vous ouvrez à votre plus grande sensibilité, vous pourrez sentir, en vous touchant, cette énergie subtile et sublime sous la forme d'un picotement. Parfois, le picotement vous traversera d'une chaleur à votre point de contact. Une chaleur que vous pourrez également sentir soudain dans tout votre corps, mais profondément concentrée dans votre premier chakra, au centre d'énergie. Il brûlera là d'une façon particulièrement intense. Et on dira que Thomas et Marie brûlent maintenant l'un pour l'autre. Alors, les deux s'embrassent. Ils referment la brèche encore davantage, car Thomas, Marie et Thomary occupent presque le même espace. Thomas et Marie peuvent sentir Thomary entre eux, et ils veulent se rapprocher encore davantage pour littéralement se fondre avec Thomary, pour devenir Thomary sous la forme physique. J'ai créé dans les corps masculins et féminins une façon de faire cela. En ce moment, les corps de Thomas et de Marie sont prêts à le faire. Le corps de Thomas est maintenant prêt à littéralement entrer en Marie. Le corps de Marie est prêt à littéralement recevoir Thomas en elle. Le picotement, la brûlure, est maintenant plus qu'intense. Elle est indescriptible. Les deux corps physiques se joignent. Thomas, Marie et Thomary ne font plus qu'un, dans la chair. Les énergies circulent encore entre eux, d'une façon urgente, d'une façon passionnée. Ils soupirent, ils bougent, ils ne se lassent pas l'un de l'autre, ne peuvent se rapprocher suffisamment. Ils cherchent à se rapprocher, de près, de plus près. Ils explosent, littéralement, et leurs corps physiques entiers sont en convulsion. La vibration envoie des ondes jusqu'au bout de leurs doigts. Dans l'explosion de leur unité, ils ont connu le Dieu et la Déesse, l'Alpha et l'Oméga, le tout et le rien, l'essence de la vie, l'expérience de ce qui est. Ce sont également des chimies physiques. Les deux sont devenus un, et une troisième entité est souvent créée à partir des deux, sous forme physique. Ainsi, une image extérieure de Thomary se crée. La chair de leur chair, le sang de leur sang. Ils ont littéralement créé de la vie. N'ai-je pas dit que vous étiez des dieux ? Question. C'est la description la plus belle de la sexualité humaine que j'ai jamais entendue. Réponse. Tu vois la beauté là où tu désires la voir. Tu vois la laideur là où tu as peur de voir la beauté. Tu serais étonné de savoir le nombre de gens qui trouvent laid ce que je viens de décrire. Question. Non, je ne serai pas. J'ai déjà vu combien de peur et de laideur le monde a mis autour du sexe. Mais tu laisses de côté un tas de questions. Réponse. Je suis là pour y répondre. Mais permets-moi de poursuivre mon récit juste un peu plus avant que tu ne commences à me les lancer. Question. Oui, s'il te plaît. Réponse. Cette danse que je viens de décrire, cette interaction énergétique que j'ai expliquée, se produit tout le temps, en tout et avec tout. Ton énergie, qui a rayonné de toi comme une lumière dorée, est en interaction constante avec tout et chacun. Plus tu te rapproches, plus intense est l'énergie. Plus tu t'éloignes, plus elle est subtile. Mais tu n'es jamais totalement détaché de quoi que ce soit. Il y a un point entre toi et chaque autre personne, endroit ou chose qui existe. C'est ici que les deux énergies se rencontrent, formant une troisième unité énergétique, beaucoup moins dense, mais tout aussi réelle. Chaque personne et chaque chose sur la planète et dans l'univers émet de l'énergie dans toutes les directions. Cette énergie se mixe à toutes les autres énergies qui s'entrecroisent pour former des motifs d'une complexité qui dépasse la capacité d'analyse de vos ordinateurs les plus puissants. Les énergies qui s'entrecroisent, s'entremêlent, se tissent et filent entre tout ce que tu qualifies de physique, voilà ce qui retient ensemble ce qui est physique. C'est la matrice dont j'ai parlé. C'est à travers cette matrice que vous vous envoyez des signaux mutuels, messages, significations, guérisons et autres effets physiques, parfois créés par des individus, mais surtout par la conscience de masse. Comme je l'ai expliqué, ces incalculables énergies sont attirées l'une vers l'autre. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Selon cette loi, le semblable attire le semblable. Les pensées semblables attirent les pensées semblables à travers la matrice. Et lorsqu'un nombre suffisant de ces énergies semblables s'agglutinent, pour ainsi dire, leurs vibrations s'alourdissent, elles ralentissent, et certaines deviennent matière. Les pensées créent vraiment une forme physique. Si un grand nombre de gens pensent à la même chose, il est fort probable que leurs pensées formeront une réalité. C'est ce qui fait la force de l'affirmation « nous prierons pour vous ». Sur l'efficacité de la prière unifiée, il y a suffisamment de témoignages pour remplir un livre. Il est vrai, également, que les pensées impies peuvent créer des effets. Une conscience mondiale de peur, par exemple, ou de colère, ou de perte, ou d'insuffisance, peut créer cette expérience, à travers le globe, ou un lieu donné où ces idées collectives sont le plus fortes. Par exemple, le pays terrestre que vous appelez les États-Unis a longtemps cru qu'il était un pays soumis à Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Ce n'est pas un hasard si ce pays est devenu le plus prospère de la Terre. Il n'est pas étonnant nulle part que ce pays soit graduellement en train de perdre tout ce qu'il a mis tant de travail à créer, car ce pays semble avoir perdu sa vision. Les termes « soumis à Dieu », « indivisible » signifiaient exactement cela. Ils exprimaient la vérité universelle de l'unité, le « un », une matrice très difficile à détruire. Mais la matrice s'est affaiblie. La liberté religieuse est devenue la rectitude religieuse, qui frise l'intolérance religieuse. La liberté individuelle a presque disparu en même temps que la responsabilité individuelle. On a déformé la notion de responsabilité individuelle au point d'en faire un « chacun pour soi ». C'est la nouvelle philosophie qui prétend revenir à la tradition d'individualisme rude qui prévalait autrefois en Amérique. Mais le sens original de responsabilité individuelle sur lequel était fondée la vision américaine et le rêve américain a trouvé sa plus profonde signification et son expression la plus élevée dans le concept d'amour fraternel. Ce qui faisait la grandeur de l'Amérique, ce n'était pas que chaque personne se battait pour sa propre survie, mais que chaque personne acceptait d'être personnellement responsable de la survie de tous. L'Amérique était un pays qui ne se détournait pas des affamés, ne disait jamais non à ses nécessiteux, ouvrait ses bras aux faibles et aux sans-abri, et partageait son abondance avec le monde. Mais à mesure que l'Amérique grandissait, les Américains devenaient cupides, pas tous, mais beaucoup, et de plus en plus avec le temps. À mesure que les Américains virent à quel point il était possible de posséder, ils cherchèrent à posséder encore davantage. Mais il n'y avait qu'une façon d'avoir de plus en plus et encore plus. Il fallait que quelqu'un d'autre en ait de moins en moins et encore moins. À mesure que la cupidité remplace la grandeur dans le caractère américain, il y eut moins de place pour la compassion envers les moins nantis. On a dit aux moins fortunés que c'était leur faute s'ils n'avaient pas davantage. Après tout, l'Amérique était la terre de la nouvelle chance, n'est-ce pas? Personne, sauf les moins fortunés, ne pouvait admettre que les chances en Amérique étaient limitées au niveau institutionnel, à ceux qui étaient déjà les mieux placés. En général, cela excluait de nouvelles minorités, comme les gens de telle couleur de peau ou de tel sexe. Les Américains devinrent également arrogants au niveau international, tandis que, sur la planète, des millions de gens mouraient de faim. Les Américains jetaient chaque jour suffisamment de nourriture pour nourrir des pays entiers. L'Amérique était généreuse envers certains, oui, mais de plus en plus, sa politique étrangère devint une extension de ses propres intérêts acquis. L'Amérique aidait les autres lorsque cela faisait son affaire, c'est-à-dire lorsque cela servait la structure du pouvoir en Amérique, l'élite la plus riche, ou la machine militaire qui protégeait cette élite et ses actifs collectifs. L'idéal fondateur de l'Amérique, l'amour fraternel, s'est érodé. À présent, chaque fois qu'on parle d'être le gardien de son frère, on se fait répondre par une nouvelle sorte d'américanité, un esprit cinglant sur la nécessité de s'accrocher à tout prix à ce qu'on a. Et des paroles cinglantes, envers quiconque, parmi les moins fortunés, oserait demander sa juste part ou un redressement de ses torts. Chaque personne doit prendre sa propre responsabilité. C'est indéniable. Mais l'Amérique, et ton monde, ne pourra vraiment fonctionner que si chaque personne accepte de se rendre responsable de vous tous en tant qu'ensemble. Question. Ainsi, la conscience collective produit des résultats collectifs? Réponse. Exactement. Et cela a été démontré à maintes reprises au cours de toute votre histoire écrite. La matrice se retire en elle-même exactement comme vos scientifiques décrivent le soi-disant phénomène du trou noir. Elle attire l'énergie semblable à de l'énergie semblable, attirant même les objets physiques les uns vers les autres. Ces objets doivent alors se repousser mutuellement, s'éloigner pour ne pas fusionner à jamais, en effet, perdre leur forme actuelle pour en prendre une autre. Comme tous les êtres de conscience savent inconsciemment cela, tous les êtres de conscience s'écartent de la fusion permanente afin de maintenir leur relation avec tous les autres êtres. S'ils ne le faisaient pas, ils fusionneraient dans tous les autres êtres et feraient l'expérience du un éternel. C'est l'état d'où nous venons. Puisque nous nous sommes écartés de cet état, nous y sommes constamment attirés à nouveau. Ce sac et ce ressac, ce va-et-vient, est le rythme fondamental de l'univers et de tout ce qu'il renferme. C'est la synergie de l'échange énergétique. Vous êtes constamment attirés, poussés vers l'union les uns avec les autres et avec tout ce qui se trouve dans la matrice. Puis, au moment d'unité, vous choisissez consciemment de vous éloigner de cette unité. Vous choisissez d'en rester libre afin de pouvoir en faire l'expérience. Car lorsque vous fusionnez avec l'unité et que vous y restez, vous ne pouvez la connaître en tant qu'unité puisque vous ne connaissez plus la séparation. Autrement dit, pour que Dieu se connaisse en tant que tout, Dieu doit se connaître en tant que non-tout. En toi et en chaque autre unité énergétique de l'univers, Dieu se connaît en tant que partie du tout. Et ainsi se donne la possibilité de se connaître en tant que totalité dans sa propre expérience. Je ne peux faire l'expérience de ce que je suis qu'en faisant l'expérience de ce que je ne suis pas. Mais je suis ce que je ne suis pas, et ainsi, tu vois la divine dichotomie. D'où l'affirmation « je suis ce que je suis ». Alors, comme je te le disais, ce sac et ce ressac naturel, ce rythme naturel de l'univers, sont propres à toute vie, y compris les mouvements mêmes qui créent la vie dans ta réalité. Les uns vers les autres, vous êtes attirés, comme par une force urgente, pour ensuite vous retirer et vous séparer, pour ensuite retourner avec urgence les uns vers les autres, pour une fois de plus vous séparer, et encore chercher avec faim, passion et urgence l'union totale. Ensemble, séparés. Ensemble, séparés. Ensemble, séparés. Vos corps dansent en un mouvement si fondamental, si instinctif, que vous avez très peu conscience d'une action délibérée. À un certain point, vous passez en mode automatique. Personne n'a besoin de dire quoi faire à vos corps. Ils le font, tout simplement, avec l'urgence de toute la vie. C'est la vie même qui s'exprime en tant que vie même. Et c'est la vie même qui produit une nouvelle vie au sein de sa propre expérience. Toute la vie fonctionne selon un tel rythme. Toute la vie est ce rythme. Ainsi, toute la vie est imprégnée du doux rythme de Dieu, ce que vous appelez les cycles de la vie. La nourriture pousse selon de tels rythmes. Les saisons vont et viennent. Les planètes tournent sur elles-mêmes et en cercle. Les soleils explosent, implosent et explosent à nouveau. Des univers inspirent et expirent. Tout cela arrive. Tout cela par cycle, par rythme, en vibrations qui correspondent aux fréquences de Dieu, déesse, de tout. Car Dieu est le tout, et la déesse est chaque chose. Et il n'y a rien d'autre. Et tout ce qui a jamais été est maintenant et sera à jamais. Est ton monde infini. Amen.